peu au milieu de nous et voilà, vous allez voir cette année de nouvelles personnes qui vont prendre la parole. On va ouvrir vos Bibles, on va lire le début, je ne vais pas lire le chapitre en entier, je crois qu'Anthony va lire aussi une partie vers la fin, et puis on va se plonger dans le texte. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ? » Et l'ange dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur dans la maison, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé, fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et puis, je m'arrête là pour la lecture. Pierre va partir le lendemain avec ses trois hommes et va entrer dans la maison de Corneille. Et bien sûr, l'évangile et le salut va rentrer dans cette maison. Père, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous enseigne et elle nous montre quel est l'appel, Seigneur, qui s'attache à notre salut. Merci parce que tu as voulu l'Église sur cette terre, Seigneur, pour t'adorer premièrement, mais pour partir en mission. Et Seigneur, aide-nous ce matin à aller encore plus. Merci pour les témoignages qui affluent, Seigneur. Merci pour ce que tu fais au travers des personnes de notre communauté, Seigneur. Et nous avons soif de plus, Seigneur. Nous voulons voir notre région autour de Nîmes, Seigneur, touchée par l'évangile de Christ. Amen. Amen. Alors, ça y est, nous y voilà. Après Jérusalem, la Judée, la Samarie, eh bien, enfin, les païens sont touchés par l'évangile. Ce chapitre raconte l'histoire donc de cet homme nommé Corneille, qui était un Romain, un centenier. Ça veut dire quoi en fait ? C'est que c'était un chef de cent. C'est facile. Et qui faisait partie de la cohorte dite italienne, parce que l'armée romaine était divisée en plusieurs groupes. Et on sait que cet homme était un homme qui servait Dieu sans vraiment peut-être le connaître, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on sait qu'il priait et qu'il offrait des aumônes. Et puis, en plein après-midi, sûrement alors qu'il était en train de prier, peut-être un moment spécifique de prière, Il fait une expérience extraordinaire. Il a la vision d'un ange. Waouh! Est-ce qu'on s'arrête quand on lit des choses comme ça? À moins que ça vous arrive peut-être tous les matins. Il fait vraiment une expérience extraordinaire. Un ange vient et lui parle et lui demande d'aller chez un certain Pierre qui se trouve à Joppé. Comprenons, on peut... Normalement, j'ai mis la slide pour voir où est-ce qu'il va. Comprenons que Dieu demande à Corneille, à ce moment-là, d'aller chercher quelqu'un qu'il ne connaît pas dans une ville située à environ 45 km. Ce qui représente 4 heures à cheval, sauf qu'ils y sont allés sûrement à pied. Et là, c'est 9 heures de marche. En marchant bien. En parallèle, dans ce passage, Pierre lui aussi a une vision. Et en fait, il ne comprend pas non plus trop ce qu'il se passe. Il voit débarquer 3 hommes qui viennent pour le chercher et l'emmener faire une petite balade. 9 heures. En 3 jours, les serviteurs de Corneille, eux, ils auront parcouru 90 km. C'est pas mal, non? Je crois qu'ils ont fait leur... C'est 10 000 pas par jour, c'est ça? Pour ramener... Tout ça pour ramener un inconnu qui va leur parler d'un truc dont ils n'ont aucune idée. C'est pas mal le contexte, non? Je crois que le chapitre 10 de Actes est le chapitre où personne ne comprend rien. Corneille doit faire venir un inconnu qui va lui dire « ben, on ne sait pas trop quoi ». Il ne sait pas trop quoi. Pierre reçoit une vision qu'il ne comprend pas et doit partir avec des inconnus pour aller voir quelqu'un qu'il ne connaît pas et lui dire quelque chose dont il n'a aucune idée. Au verset 29, Pierre arrive et dit « si vous pouvez me dire pourquoi je suis là ?» Il va dire « c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif, au fait, vous m'avez envoyé chercher. » 9 heures de marche. Waouh! Pierre est dans le flou. On peut aussi imaginer qu'il est dans le flou et mêlé de crainte. D'accord? Il ne va pas voir n'importe qui. Il va voir un officier de la garde romaine. Il est convoqué par un chef militaire sans en connaître la raison. Imaginez que 3 gendarmes, parce qu'ils sont venus à 3, débarquent chez vous ce soir et disent que le commandant en chef de la brigade veut vous voir et que vous devez les suivre immédiatement. Je pense qu'il y a une petite pointe de stress qui se manifesterait. Et on se demanderait, bien sûr, ben pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dois y aller ? C'est sûrement la première question que l'on poserait. Pour ajouter à toute cette incompréhension, bien Luc précise que Pierre, au moment où il reçoit cette vision, il tombe en extase. Waouh ! C'est le mot qui a donné « extasie » en français. Ça veut dire qu'il a perdu ses repères. Au moment où Pierre rentre dans cette vision, il ne sait plus où il est. Il est en extase. Du coup, je crois que c'est vraiment un point important de ce chapitre. On ne comprend pas, mais on obéit. Et ça, c'est le premier point que je voulais faire ressortir de ce texte. Obéir sans rien comprendre ou avant même de comprendre. Ce qui est magnifique dans ce texte, c'est de constater que y a certains cœurs qui sont prompts à obéir et déjà bien disposés. Corneille ne discute pas avec Dieu. Est-ce que ça vous a surpris quand vous avez lu ça? Il ne discute pas avec l'ange. Il obéit sans se poser de questions et envoie immédiatement 3 hommes vers 9 heures de marche pour aller chercher Pierre. Alors peut-être c'est sa formation militaire qui l'a préparé à cela, mais il ne discute pas les directives. Il a compris que sa place, ce n'est pas celle où il doit tout savoir et tout maîtriser. Ce n'est pas sa place. Ça, c'est la place de Dieu. Son rôle est de suivre ce que Dieu dit. À l'inverse, Pierre a un caractère bien trempé. Au début, eh bien, il est celui qui discute avec Dieu. Alors, il est pêcheur de formation, pêcheur au sens de pêcher les poissons. Probablement qu'il le vendait aussi. Il avait donc peut-être l'habitude dans son éducation de négocier, de marchander, de justifier le pourquoi. Il entre donc en discussion avec Dieu, où il tente de lui expliquer des choses au cas où Dieu aurait peut-être oublié certains paramètres. Ah oui, mais là, t'as pensé que non, c'était peut-être pas ça. Peut-être que Dieu avait aussi oublié ce qu'il avait dit dans sa loi. Et au verset 14, il y va fort. On connaît Pierre avec son caractère feu d'artifice. Il va, au verset 14, il va jusqu'à oser dire « Non, Seigneur ». Et en fait, au niveau du lexique, c'est une anomalie. Normalement, ces deux mots ne vont pas à côté. Si Dieu est Seigneur, ben je ne lui dis pas non. Si je lui dis non, ben c'est juste qu'il n'est pas Seigneur dans tous les domaines de ma vie et dans le domaine où je lui dis non. Je crois que Pierre, en extase, rappelons-nous, est déstabilisé par ce qu'il est en train de se passer. Il ne comprend pas. Il va jusqu'à en perdre son latin, enfin, plutôt son hébreu peut-être. Dieu redonne alors jusqu'à 3 fois la vision pour bien montrer à Pierre que si, c'est Dieu sait ce qu'il fait et c'est lui qui dit. C'est lui le Seigneur. Du coup, je crois que cela nous amène ce matin à nous poser cette question. Est-ce que nos cœurs sont prompts à obéir à Dieu ? Ne répondez pas, mais répondez quand même dans votre cœur. Est-ce que, sincèrement, devant Dieu, nos cœurs sont prompts à obéir ? Ou alors est-ce qu'ils sont prompts à discuter ? Avons-nous grandi dans un contexte qui nous apprend cette espèce d'obéissance instinctive, presque comme un réflexe, ou sommes-nous bien entraînés à discuter et pour éviter d'obéir? Je crois que notre culture française nous impose de nous poser cette question. J'avais envie de m'adresser aux parents aussi, donc je me mets avec vous, bien sûr. Dans l'éducation que je donne à mes enfants, est-ce que je réfléchis à la place que je donne à l'obéissance? Et aujourd'hui, je pense qu'on devrait se poser cette question. Quelle place je mets pour l'obéissance dans l'éducation de mes enfants? Est-ce que je privilégie toujours la discussion, comme ce qu'on nous dit? Non, il faut discuter tout le temps, il faut expliquer tout le temps. Je crois que ce texte dans Actes nous dit peut-être pas tout le temps. Est-ce que j'apprends à mes enfants l'obéissance, même s'il ne la comprend pas, même s'il ne sait pas pourquoi il doit obéir? Et je crois que ça doit faire partie de l'éducation que l'on transmet à nos enfants. Parfois, bien sûr, on prend le temps, et souvent, j'espère, on prend le temps d'expliquer les choses. Mais je crois qu'ils ont besoin aussi d'apprendre à grandir avec le fait que obéir, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'obéis. Tout ceci, bien sûr, pour ceux qui se régalent de la Bible, nous rappelle 1 Samuel 15. Normalement, je l'ai affiché. Prompteur, ah merci. Samuel dit dans 1 Samuel 15, 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» La question est posée. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est coupable autant que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes, c'est les petites idoles. Acte 10 nous rappelle donc la place de l'obéissance à Dieu dans la mission de l'Église. Heureusement, Dieu nous connaît bien et sait comment nous convaincre. Pourquoi ? Parce que c'est lui, le Seigneur, qui nous conduit. Et voilà, bien sûr, que l'on trouve Pierre en route vers Césarée à la rencontre de Corneille. Pierre a un cœur qui parfois résiste à Dieu, pour un temps, mais qui, au final, a assez d'humilité pour rentrer dans l'obéissance. Et je suis persuadé qu'en tant que bon Français, il nous est plus facile de nous identifier à Pierre qu'à Corneille. Nous résistons à Dieu et à son appel pour la mission. Je ne crois pas que les chrétiens évangéliques soient les plus connus, les chrétiens français évangéliques, pour partir en mission, pour aller implanter de nouvelles églises en France, à l'étranger, partout dans le monde. On résiste à ce que Dieu nous demande de faire. Mais ce que je veux nous encourager ce matin, c'est d'avoir l'humilité de Pierre et de nous laisser convaincre pour que la finalité de notre résistance, ce soit l'obéissance. Vous êtes d'accord ? Merci Julie pour ces témoignages extraordinaires. La deuxième chose à laquelle ce chapitre nous encourage, enfin, il y en a bien sûr plein d'autres, mais la deuxième chose que je relève ce matin, c'est que l'Église en mission est directement soutenue par le monde invisible de Dieu et la dimension surnaturelle. Waouh ! C'est pas pour rien si les personnes ne comprennent rien dans ce chapitre. C'est parce que Dieu est en train de parler depuis le monde invisible. Dieu ne nous laisse pas seuls face à nos incompréhensions de aller vers qui, comment, où. Moi, je ne sais pas. On est tous dans cette position-là. Pourtant, ça ne doit pas être un frein au fait d'aller. Dieu nous conduit par des anges, par la visitation du Saint-Esprit. Dieu prépare Corneille par l'envoi d'un ange. Il plonge Pierre dans un bain d'esprit si intense que Pierre tombe en extase. Puis, comme va sûrement le partager Anthony tout à l'heure, l'Esprit s'introduit dans le discours de Pierre et vient lui-même convaincre l'auditoire. Pierre n'aura même pas le temps de terminer son discours que le Saint-Esprit passe et agit déjà. Ce chapitre, je crois, est là pour nous donner de l'assurance quand nous partons en mission. Amen. Partir en mission, c'est obéir à Jésus et c'est aussi entrer dans le ministère central du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qu'il fait, le Saint-Esprit. Il nous permet d'obéir au grand commandement. Amen. Je crois que c'est important de le réaliser. Souvent, on cantonne le ministère du Saint-Esprit dans l'église locale, dans la bénédiction au travers des dons qu'il déverse. Mais je crois que le ministère central du Saint-Esprit, c'est de nous rendre capables de dire « Seigneur, on y va faire des nations, des disciples. » Amen. Si on comprend ça, on sait où trouver le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi quand nous témoignons de Jésus, que nous tentons d'apporter l'Évangile quelque part, il n'est jamais loin. Il est toujours là. Il est même à l'origine de cet élan qui nous pousse à témoigner, car c'est son œuvre centrale sur terre. J'aime bien me rappeler les premières fois quand je suis parti, dans le sens aller annoncer l'Évangile, aller en mission. C'est là où j'ai vu ma première guérison. Parce que j'ai dit, Seigneur, oui, moi je veux y aller. J'avais 20 ans. J'étais en Mongolie et on priait pour une dame âgée, beaucoup plus vieille que Jackie. Et alors que je pose la main sur cette dame, je vois les larmes couler. Elle avait un problème aux oreilles depuis plusieurs années et elle avait des grosses douleurs. Alors, je ne sais pas ce que c'était. Vous comprenez bien qu'en mongol, je n'ai pas demandé. On avait une traductrice. Et alors que je prie pour elle, elle commence à pleurer. Et moi, je commence à me dire, mais qu'est-ce que tu as pu dire encore qui l'a fait pleurer ? Et elle commence à sourire en même temps et elle commence à, un peu à crier de joie et à dire « j'ai plus mal, waouh !» C'est quand on part en mission qu'on est face à ce que le Saint-Esprit fait. C'est aussi là-bas où j'ai vu mon premier prodige, où il n'avait pas plu dans le désert de Gobi depuis 3 mois. C'était sec, les troupeaux n'avaient pas d'eau et les bêtes commençaient à mourir les unes derrière les autres. Et nous, on va visiter une famille et bien sûr, on demande « Mais c'est quoi vos sujets de prière, au fait ?»« Ben, il n'a pas plu depuis 3 mois. »« Non, non, mais sinon, vous n'en avez pas un autre ?» Et on a prié. 3 mois, les amis. Et en priant, je peux vous dire, vous priez les yeux ouverts à ce moment-là. Et vous regardez s'il n'y a pas un petit nuage qui traîne et qui va vous donner une source de foi. Eh bien non, il n'y avait rien. On prie. Et 30 minutes après, un orage débarque. Mais énorme. Il a duré 1 heure. Alors bien sûr, nous les Occidentaux, on est allés se cacher. Il y avait une petite cabane en bois, on est allés à l'abri. Et la famille est sortie en dansant sous la pluie. Et ils nous regardaient comme des tarés. On avait prié. La pluie est là et nous, on va se cacher. Et ils nous ont tirés dehors. Parce que Dieu avait répondu à la prière. C'est en mission qu'on va voir des choses extraordinaires se passer. Amen. Être en mission, c'est se lancer dans une aventure à la suite du Saint-Esprit et s'émerveiller de comment il agit. Et voilà comment se termine cette rencontre extraordinaire orchestrée par Dieu. Au verset 33, je ne sais pas si je l'ai mis. Non. Verset 33. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Pierre est arrivé chez Corneille pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et Pierre arrive pour annoncer l'Évangile. À toi, Anthony.
Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on m'entend ou pas ? Tu me dis, je sais pas si. Vous m'entendez ? Ça va ? Non ? J'ai une petite voix, hein. Donc peut-être. On n'entend pas. Ça y est. Bon. J'ai une petite voix, donc il faut compenser. Donc on va commencer par lire du coup à partir du verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre annonçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Lorsque Pierre arrive chez Corneille et qu'il voit Corneille, il voit son entourage, comme l'a dit Farid tout à l'heure, hein, c'était quand même un endroit qui était pas si simple d'aller. Mais il commence par, après avoir eu un échange avec lui, il commence par dire: « En vérité, je comprends que Dieu n'est pas partial ou ne fait pas de favoritisme. Et que dans toutes les nations, toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. » Je crois que c'est important de réaliser que Pierre, qui a été choisi par Dieu pour annoncer l'évangile d'abord aux Juifs, avait des schémas de pensée qui n'étaient peut-être pas dans la pensée de Dieu. Il réalise seulement à ce moment-là l'étendue du plan de Dieu qui était pour lui réservé encore aux Juifs. Comme on connaît Pierre, hein, comment il est, on l'a dit tout à l'heure, il a un certain caractère, hein, il est impulsif, il a des idées préconçues. Et combien de fois Jésus a déjà dû le reprendre ? On voit dans Matthieu 26, 52, alors Jésus dit: « Remets ton épée à sa place. » On suppose qu'il s'adresse à Pierre. « Car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. » Dans Matthieu 16, une fois après que Jésus ait annoncé qu'il allait mourir, Pierre le prit à part et il lui dit que « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et nous, là-dedans, où est-ce qu'on se situe ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se comparer un peu à Pierre ? Nous sommes tous dans nos vies un peu comme Pierre, avec nos schémas de pensée, nos a priori, nos idées, mais ô combien on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous façonner à l'image de Christ. Premièrement, pour lui ressembler, lui être agréable, mais aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Nous ne sommes peut-être pas aujourd'hui dans un pays où il y a un choc culturel comme les Juifs, les Romains. Aller dans une maison de Romains et de l'armée, c'était aussi s'exposer à une mort ou enfin, en tout cas à des dangers extrêmes. Alors, c'est pas aussi tendu pour nous, mais on est tous différents. Et on peut être fermé lorsqu'on se retrouve des fois face à quelqu'un qui ne nous ressemble pas, spirituellement parlant, culturellement parlant, la classe sociale, et j'en passe. Et quand on ressent peut-être qu'il faut faire quelque chose, dire quelque chose, on regarde et on se dit « Non, lui, ça m'étonnerait que ce soit à moi d'annoncer l'évangile. Quelqu'un d'autre le fera certainement mieux que moi. » Et c'est vrai que quoi de mieux qu'un criminel, par exemple, en prison, qui se convertit, il devient pasteur, pour ensuite annoncer l'évangile à des criminels, par exemple. C'est vrai, hein, c'est parallèle, on se dit c'est bon, il a été, il a connu, il fera mieux. Ça peut être la drogue, ça peut être tellement d'autres choses, d'autres domaines. Mais c'est pas parce que ça existe, c'est pas parce que ça se passe aussi comme ça, qu'il est impossible que Dieu t'appelle aussi à parler à quelqu'un qui ne te ressemble pas. Dieu peut aussi t'envoyer, nous envoyer. Donc, qu'on n'en fasse pas une règle, une certitude, que Dieu va uniquement passer par eux pour annoncer l'évangile à eux. Alors, ça, c'est ce que j'appellerais aussi la providence, hein. Oui, Dieu, si tu obéis pas, il passera par. Mais on est aussi au bénéfice de ça. Annoncer l'évangile, c'est important et c'est même un mandat. Dans Luc 10:2, Jésus dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Il sait du reste où il nous envoie, vers qui il nous envoie. Mais Dieu prend soin de nous, il nous connaît nos cœurs, nos faiblesses. Il sait ce dont nous avons besoin pour grandir et pour le servir. Son esprit est là et il nous parle, nous conduit et nous révèle sa parole et la volonté de Dieu. Dans les conditions où vivaient les apôtres, c'était pas chose aisée, comme on l'a dit tout à l'heure. Pierre annonçant l'évangile à des Romains, en plus d'avoir peur, hein, tout ce contexte qu'on a déjà cité. Ok, j'annonce l'évangile, ok, y croit, maintenant je veux quand même des preuves. On s'adresse quand même à des Romains. Ils n'ont pas le Dieu d'Israël, ils n'ont pas cru au Christ, et j'en passe. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait sûrement exigé une preuve de foi avant d'accepter de les baptiser d'eau, par exemple. C'est des exemples, des suppositions. Un peu comme quand Paul est appelé, il est saisi par la grâce de Dieu, il se retrouve face à les apôtres, ils ont quand même un peu les pépettes, quoi. Ils ne croient pas tout de suite que c'est bon, c'est réglé. C'est presque comme s'il avait été éprouvé derrière, prouve-nous, quoi. Mais là aussi, dans sa grande sagesse, Dieu a pourvu pour ça. Pierre, alors qu'il annonce l'évangile, comme on a pu le lire, hein, pendant qu'il parle, le Saint-Esprit vient baptiser les Romains. Comme si Dieu dit à Pierre, c'est bon Pierre, t'as bien parlé, je vais prendre le relais. Il lui coupe carrément le sifflet. Et ce qui s'est passé là, c'est pas anodin. En effet, Pierre dit ensuite, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Et il ordonna de le baptiser au nom du Seigneur. Je crois qu'il pouvait même plus se poser la question, en fait. La preuve était là, c'était indiscutable. Il y avait clairement un fruit et quelque chose qui pensait même jusque-là était réservé seulement à eux. Je vais vous raconter un petit témoignage. Il y a quelques années, j'ai commencé à échanger sur la parole de Dieu à des témoins de Jéhovah. Et cette première fois-là, cette même fois-là, je suis reparti de chez eux, j'étais tremblant. Il venait de se passer quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Une parole qui a été utilisée, et je dis bien utilisée, dans Proverbes pour montrer que Jésus n'était pas Dieu, mais qu'il avait été créé par Dieu. Proverbes 8:22, il m'a créé la première de ses œuvres, etc., etc. Dans la voiture, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, là, t'es en train de me faire quoi? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un arrière-plan TJ, témoin de Jéhovah. D'accord, j'ai grandi là-dedans. Donc dire quelque chose comme ça à moi, à ce moment-là, ça ébranle. Ça, on se dit bon. Surtout quand on a été éduqué comme ça, ça tient, c'est solide. Mais Dieu avait déjà préparé les choses. Pendant ce temps-là, j'avais rencontré des frères à l'église de La Rencontre, sur Nîmes. Et puis, pendant ce temps-là, à ce moment-là, j'avais passé un peu de temps avec les jeunes, des études, toutes sortes de choses. Et parmi ces choses, donc les études, et j'ai découvert l'application BibStrong, qu'ils utilisaient déjà depuis un moment, et ils m'ont appris à l'utiliser. Et du coup, rapidement, je me suis souvenu de ça, et souvenu que c'était un outil et que je pouvais m'en servir. Donc j'ai cherché et j'ai réalisé que la parole qui m'a été donnée était tordue. J'ai pu reprendre courage et continuer ce que j'avais commencé. Ces mêmes personnes aujourd'hui proclament que Jésus est Dieu. Merci Seigneur. Il nous a préparés d'avance. Il nous a préparés, il pourvoit. Lui seul sait ce qui va se passer. Il sait comment ça va se dérouler et il sait aussi et surtout qui il envoie. Et avec toute notre faiblesse. Pour en arriver là, Pierre a fallu, il lui a fallu faire preuve d'obéissance et de foi. Nous avons notre part à faire et nous y résistons souvent, par crainte de ce qui pourrait se passer. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est indispensable avant d'être envoyé. Jésus dit aux disciples dans Actes 1, verset 4 et le verset 8, un jour qu'ils étaient à table avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que, leur dit-il, vous avez appris de ma bouche. Et dans le verset 8, mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus d'une force, et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être envoyé. On va nulle part, on est sans force. On ne peut pas faire face à ce qui nous attend. Les disciples, sans le Saint-Esprit, avaient peur. Ils étaient sans force, parfois même incrédules. Combien de fois Jésus a dit à un homme de peu de foi, après tout ce qu'ils ont vu. Mais après l'avoir reçu, ils ont pu faire les œuvres que Jésus avait faites. Les œuvres que Jésus avait faites. Dieu s'occupe de nous, nous qui devons faire sa volonté. Et nous devons faire sa volonté. Alors faisons-lui confiance, car il connaît toutes choses. Il connaît nos cœurs, nos pensées, nos faiblesses, notre foi et notre amour pour lui. Il nous équipe à être les ouvriers de sa moisson par son esprit. Il nous a équipés à être les ouvriers de sa moisson par son esprit uniquement. Alors annonçons l'évangile. Si vous voulez bien, je vais prier. Seigneur, nous avons entendu, nous avons cru et nous avons reçu. À toi soit la gloire, Père, par ton Fils Jésus-Christ et par ton Esprit Saint. Revêt-nous de ton Esprit, Seigneur. Revêt-nous de ton Esprit et envoie-nous. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Pour ça, je crois qu'il faut qu'on te connaisse d'abord, pour te faire confiance, car nous avons confiance en celui qui nous aime. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint et conduis-nous, Seigneur. Tu connais toutes choses et tu sais vers qui tu veux nous envoyer. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta parole. Et merci pour les ouvriers, Seigneur. Amen.